Et oui, vous avez reconnu, c'est l'indicatif de notre émission, Les Livres ont la parole. Et aujourd'hui, dans Les Livres ont la parole, eh bien, on a la chance d'avoir rencontré quelqu'un de passionnant, quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle M. Gérard Mordilla. Vous en avez sûrement entendu parler. Il a fait pas mal de romans, beaucoup de romans. Il en a fait plus de 20, 25, autour de 25. C'est un réalisateur aussi. Il a fait pas mal de cinéma. Il a tourné autour de 23 films qui, en général, sont des documentaires, je dirais, entre guillemets, même des guillemets un peu politiques. Car M. Mordilla est quelqu'un qui est très impliqué à gauche, comme on dit, à gauche de la gauche, comme on dit maintenant. Voilà, on dira ça. Donc j'ai eu la chance de rencontrer M. Gérard Mordilla pour, non pas son dernier roman, puisqu'entre-temps il y en a un autre qui est paru, qui s'appelle La Brigade du Rire. Ce livre d'ailleurs avait paru en 2015, j'ai vu M. Mordilla courant en 2016, et depuis, eh bien, il a paru un livre de poche, et vous pouvez le trouver. Donc voici Gérard Mordilla autour de cette Brigade du Rire. Alors cette interview a été réalisée en public, donc vous entendrez peut-être un peu de bruit, ça va résonner par moments, les gens vont peut-être un peu bouger, c'est comme ça. Et ma première question que j'ai posée à Gérard Mordilla, c'est de savoir si on peut mettre ce nouveau roman, La Brigade du Rire, dans une thématique plus générale, et si peut-être ça peut ressembler à quelque chose qui serait bien une vue sociale du roman.
Oui, des grandes fresques, je ne sais pas. Je crois que mes livres parlent du réel. Comme disait Lacan, le réel, c'est ce qui ne va pas. Donc je crois que je parle de ça, et j'ai un grand souci, justement, de parler du monde dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que je suis toujours très étonné de voir que la production romanesque française, ça a un peu changé, était à ce point aveugle et sourde au monde dans lequel nous sommes. Et je dirais la même chose du cinéma et de la télévision. Si vous êtes martien et que vous faites une étude sociologique sur ce qu'est la France en prenant comme référence la télévision, le cinéma et la production romanesque, vous arrivez à la conclusion que l'essentiel des Français sont dans la police, dans la magistrature ou dans la publicité. D'ailleurs, ils ne travaillent pas, c'est une vue de l'esprit. Quant aux femmes, elles sont ou mères au foyer, ou call girl, ou dans la publicité, ce qui est à peu près la même chose que la prostitution. Donc on voit bien qu'il y a là une coupure très importante entre le réel et puis l'imaginaire qui est mis en avant à travers l'expression artistique. Moi, tout au contraire, je crois que particulièrement le roman, qui est à mes yeux le dernier grand espace de liberté d'expression, permet de parler du monde où nous sommes. Parce que le roman, d'une part, invente un lecteur intelligent, et puis ensuite charrie dans cette espèce de torrent à la fois de l'histoire, avec un grand H, des histoires, du savoir, du pouvoir, de la mémoire, etc. Donc le roman, et ça renoue là avec la grande tradition romanesque française du 19e siècle, que ce soit Balzac ou Victor Hugo, même pourquoi pas Eugène Sue, qui était capable de prendre dans son sein tous les éléments de la vie. Quand vous lisez ou quand vous relisez Les Misérables, vous êtes absolument émerveillé de voir comment Victor Hugo, un moment, fait un dictionnaire de l'argot. Ça n'a rien à voir dans un roman, mais oui, il le fait parce que le roman peut supporter ça, comme il peut supporter, je ne sais pas, dans 93, il y a un moment, 4 pages sur l'onomastique, sur tous les noms de villages que traverse le personnage, etc. Le roman peut porter ça, il peut porter cette mémoire, et dans une liberté qui n'existe que dans le roman, parce que si on prend les grands médias sont tous dans la suggestion de la banque ou d'entreprise liée ou au bâtiment ou à l'armement, c'est-à-dire très directement liée au pouvoir politique. Et puis si on prend le cinéma ou la télévision, il y a bien sûr le mur de l'argent qui est là et qui est très difficile à franchir. Avec cette chose très curieuse que lorsque vous rencontrez des décideurs sur le plan financier, dans les télévisions ou dans les distributeurs de films, et que vous proposez un film qui se passe dans le monde contemporain et dans le monde du travail, working class, comme disent les Anglais, je dis ça parce qu'à ce moment-là, on vous sort la marionnette absolue qui est Ken Loach. Il n'y a qu'un seul cinéaste au monde qui peut faire des films dits sociaux, c'est Ken Loach. Donc on voit bien que le roman nous offre une place et qui est une place absolument exceptionnelle. Et donc c'est pour ça aussi que une fois que j'y suis, si je puis dire, eh bien je profite de cette place. Et s'il faut écrire 400 pages, 500 pages, 600 pages, 700 pages, je les écris.
Bien. Alors justement, votre dernier roman, La Brigade du Rire, qui vient de paraître chez Albin Michel, fait 515 pages. Alors donc, 9 amis qui ont été très copains dans leur jeunesse, qui se sont retrouvés quelques temps après. Ils en ont tous un peu après la société, peu ou prou, hein, et ils tentent un coup. On pourrait simplifier le livre en disant ça.
Oui, enfin, ils sont pas 9, ils sont 7, parce qu'ils étaient une équipe de hand.
Voilà.
Ils se réunissent pour fêter la victoire à un championnat lorsqu'ils étaient au collège. Donc ils se retrouvent 30 ans plus tard, et chacun, bien entendu, a une vie. Alors certains ne se sont pas perdus de vue, d'autres, au contraire, se sont un peu éloignés. Mais les uns et les autres découvrent avec plaisir et avec bonheur, d'ailleurs, que finalement... la radicalité de leur jeunesse ou de leur adolescence n'est pas perdue, et qu'à travers les aléas de la vie, ils ont gardé quelque chose de ce qui les unissait profondément au-delà du handball. Et l'un d'entre eux, bien entendu, quand on se retrouve après quelques années, chacun est plus ou moins amené à raconter sa vie, à dire ce qu'il a fait, etc. Et l'un d'entre eux a été licencié de l'imprimerie où il travaillait en Dordogne. Ce qui est banal. Il a dans sa poche, ce qui est moins banal, l'éditorial dans un journal qui s'appelle Valeurs Françaises, qui, prenant pour exemple cette fermeture d'entreprise, explique comment les ouvriers français retardent d'un siècle, qu'ils n'ont pas encore compris ce qu'était la mondialisation, qu'il y a une nécessité de se séparer de toutes les entreprises qui ne sont plus exactement dans cette compétition, que tous les ouvriers sont manipulés par des syndicats crypto-communistes, qu'il n'y a aucune compétitivité, aucune productivité, que les salaires sont bien trop hauts, que le temps de travail devrait être décidé par les entrepreneurs et devrait tourner aux alentours de 48 heures. Quant au salaire, il faudrait s'aligner sur les salaires chinois pour pouvoir les concurrencer. Et il propose d'ailleurs de payer le SMIC 20% en dessous de ce qu'il est actuellement.
En fait, on n'a jamais entendu cette façon de parler, hein.
Non, on l'a tellement entendu que la fiction, et c'est là que c'est très intéressant, est à mes yeux toujours en avance sur la réalité. Ce que je viens de vous dire là, je l'ai lu la semaine dernière, exactement comme s'il avait recopié mon livre, sous la plume de M. Arnaud Leparmentier, qui écrit « Dans le monde ». Il développait exactement ces idées-là. Il rajoutait d'ailleurs que pour lui... la Cour de cassation, c'était des rouges, et il fixait le SMIC, qui était hors de prix à ses yeux, à 691 euros par mois, en faisant des semaines de 40 heures. Donc voilà. Ils sont donc très choqués de ce qu'ils entendent. Et puis, c'est une soirée, donc on plaisante, on s'amuse, et on se demande qu'est-ce qui peut arriver à un type comme ça. Alors bien sûr, les premières idées, ce sont d'aller lui casser la figure, lui voler sa voiture, lui prendre des sous, enfin faire quelque chose. Puis il y en a un qui dit « Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre la question. Qu'est-ce que ce type n'a jamais fait ?» Donc il cherche, jusqu'au moment, il y en a un qui me dit « Bah, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. Il parle des salaires, il parle des conditions de travail, il parle de la productivité, mais il ne sait pas ce que c'est. Bien sûr, il écrit dans un journal, mais... au fond, quel est son parcours? Il est venu vraisemblablement d'une famille bourgeoise. Il a fait des études, l'ENA. Il a intégré la sous-préfectorale, puis un cabinet ministériel, puis où il a resté quelques temps avant de rentrer dans cet hebdomadaire dont il est devenu un peu l'éditorialiste vedette. Et comme ces chiens de garde qu'a filmé Gilles Balbastre, et qui avait écrit avant Serge Halimi, eh bien on le voit à la télévision, on l'entend à la radio, et il défend et il répète sans cesse cette même histoire, ce discours qui est devenu la tarte à la crème du néolibéralisme. Le travail coûte, il n'y a maintenant que le coût du travail. le salaire est un mot qui a disparu du vocabulaire médiatique, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont le kidnapper, et puis ils vont le mettre au travail, puisque l'un d'entre eux a un garage, dans le sous-sol du garage, ils vont installer un atelier, une perceuse à colonne, et puis, en lui lisant ses propres éditoriaux, ils vont appliquer à la lettre ce qu'il préconise, c'est-à-dire des semaines de 48 heures, ils vont lui faire faire les 3-8, bien entendu, il sera payé 20% en dessous du SMIC, et comme il faut être productif, ils vont lui imposer de faire 600 pièces à l'heure, de percer des trous dans du duralumin, 600 pièces à l'heure. Ce qui est énorme. C'est vraiment très difficile de réussir ça. C'est vraiment des objectifs très compliqués. Donc ils vont faire ça. Et leur projet est un projet très particulier, puisqu'ils ne veulent pas rendre la chose publique. Ils ne veulent pas communiquer. Il n'y a pas de revendication. Il n'y a même aucune information qui circule. Et le personnage qui s'appelle Ramu ne peut pas non plus parler à l'extérieur. Donc il est là. Mais tout simplement, pourquoi? Mais parce qu'il est très précisément dans la situation d'un ouvrier, de façon banale. Lorsque vous prenez votre poste de travail, que ce soit dans un bureau ou dans une entreprise ou dans un atelier, on ne fait pas un communiqué à l'AFP pour dire que vous avez commencé à travailler. Donc il travaille dans cet anonymat. Et voilà, ils vont le garder là, comme ça, pendant 4 mois, pardon. Oui. Ils vont le faire travailler, et ça va être l'objet du livre.
Alors un élément dont vous n'avez pas parlé et qui est très important, au moins pour les trois quarts du livre, c'est le côté humour tonique. Alors c'est un peu cynique, effectivement, ça ne peut pas ne pas l'être. Mais il y a un côté humoristique absolument extraordinaire et on est, chaque page, on éclate de rire.
Tant mieux, bah oui, j'espère.
On rit jaune.
J'espère qu'on rit, mais parce qu'au départ, ça part comme une farce, et comme toujours, le rire est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc bien sûr, ça les fait rire, et ça vous fera rire aussi, et j'espère que ça vous fera rire. Il y a quelque chose de très stimulant dans ça. C'est toujours, le rire est toujours finalement l'arme ultime devant la situation la pire qui nous est faite. on voit, il suffit de regarder un peu autour de nous, de regarder même un peu derrière dans l'histoire, il y a toujours eu des hommes qui ont eu le courage de rire dans les choses les plus terribles. Je ne sais pas, il y a une photo que je trouve extraordinaire d'un révolutionnaire qui était avec Zapata, qui est devant le peloton d'exécution et qui se marre. Il va mourir, il se marre de voir les types qui vont le tuer. Eh bien, je crois qu'il y a ça. C'est une force incroyable. Eh bien, dans la brigade du rire, ça les fait rire. Et puis, il y a des choses qui sont purement d'humour. Je vais vous dire une petite chose pour vous donner un indice. Ça ne vous gâchera pas la lecture du livre. Et puis, ça va vous mettre en tête une phrase que vous n'oublierez jamais. Dans la bande, il y en a qui... il y a un des personnages qui vit avec des jumelles, deux jeunes femmes.
Un peu coquinette, quand même.
Des jumelles qui sont particulièrement actives.
Oui, voilà. Oui.
Et donc, elles vont faire des courses au supermarché. Et puis, elles sortent du supermarché en voiture. Puis à ce moment-là, il y a une voiture qui essaye de leur brûler la politesse par la droite. Et... Muriel, l'une d'entre elles, baisse sa vitre et demande à ce type qui essaye de les doubler, qui est là avec sa femme, de baisser aussi sa vitre. Le type, bien entendu, les deux voitures sont à touche-tous, baisse sa vitre, persuadé qu'il va se faire injurier, qu'ils vont échanger des injures. Et à ce moment-là, Muriel chuchote « à mardi ». Et sa sœur démarre. Et le type reste là avec sa femme...
Ils en parlent longtemps dans le livre. De cette...
oui.
C'est un peu un symbole, oui.
Et quand on vous dira à mardi, maintenant, ne l'oubliez jamais.
Alors, tous les personnages, donc les 7 ou 9 personnages, ils ont chacun un métier. Et ce qui fait qu'on a l'impression que votre livre et votre panel de personnages sont un peu le panel de la société, française.
Oui, enfin, les uns et les autres ont... une occupation, un métier, deux sont profs, un dirige une entreprise d'ailleurs de sous-traitant mécanique pour l'automobile.
Il est virulent aussi, lui.
Oui, mais lui c'est un personnage très particulier parce qu'à la fois il est chef d'entreprise d'une certaine manière et puis en même temps secrètement il est un lecteur extrêmement assidu. De Lénine, de Marx, de Kropotkin, de Bakounine, etc. Personne ne le sait. Personne ne le sait dans son entreprise, en tout cas. Et donc, il fait ça. Voilà, les uns et les autres ont un métier. Et quand je dis un métier, c'est intéressant parce que on voit bien, encore une fois, comment les mots sont importants. Parce que, d'abord, on a eu un métier, hein, puis ensuite... on a eu un travail, puis on a eu un emploi, et maintenant on a un job. Et bientôt on n'aura plus rien. Donc eux, effectivement, ont des métiers et exercent et gagnent leur vie, quoi. Et donc ils savent ce que c'est. Et d'ailleurs, il y aura un moment, Ramu, ce type qu'ils ont mis au travail, ils vont découvrir, mais au fond ils s'en doutaient, ils ne l'avaient jamais formulé. Quand Ramu reçoit sa première fiche de paye, parce qu'ils lui font des fiches de paye, il se rend compte qu'il n'a pas la moindre idée de ce que ça signifie. Mmh. Il y a différentes retenues et tout ça. Il voit des sigles, il ne sait pas du tout ce que c'est, la retraite, la sécurité sociale, ça. Il n'en a pas la moindre idée. Donc c'est vraiment très important de montrer cet écart qui, à mon sens, est de plus en plus grand, notamment dans le monde médiatique et politique, entre justement le réel, ce qui est la situation de millions de salariés en France et en Europe, et ceux qui, finalement, décrètent un certain nombre de choses et décident pour eux de choses qu'ils ne devraient pas décider. Donc il serait temps, là aussi, de rétablir le principe même de la démocratie, qui est de donner le pouvoir au peuple, en tout cas de donner le pouvoir à ceux qui sont directement en première ligne sur les décisions qui sont prises.
Alors il y a un nouveau personnage qui est assez étrange, enfin on ne le voit pas d'ailleurs, c'est celui qui était clown, on se dit tiens ça y est, il va se passer quelque chose, mais pas de chance, il lui était arrivé un petit problème.
Oui, le septième membre de l'équipe, qui était le goal de l'équipe, oui. Est décédé, s'est suicidé.
Au départ, ils ne le savent pas.
Non, ils ne le savent pas. Et il est remplacé par la femme avec qui il vivait, qui est une Eurasienne, qui travaillait avec lui. Lui faisait clown dans un cirque. Il était peut-être avec les Macloma ou le Cirque du Soleil, je ne sais pas. Et sa compagne, elle, jonglait. Et cette jeune femme, qui s'appelle Victoria, va être un personnage déterminant dans l'histoire, parce que dans ce livre-là, mais comme aussi dans mes précédents livres, s'il n'y a pas de héros au sens masculin du terme, je pense qu'il y a réellement des héroïnes. Et Victoria est une héroïne, comme un autre personnage qui s'appelle Betty, qui, elle, est en dehors de cette histoire, oui, et qui, en même temps, va vivre, elle aussi, une transformation radicale de sa vie. Donc, il y a ça. Et c'est vrai que les personnages féminins dans ce roman ne sont apparemment pas au premier plan, et en réalité, ce sont eux qui, d'une part, au fond, théorisent ce qu'il faut faire, font vivre l'action, et puis la prolongent avec peut-être le plus de détermination et le plus d'endurance.
Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans votre livre, c'est, bon, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est le côté non médiatique. Alors dans la boîte de monsieur, dans la Valeur française, tout le monde s'affole, mais qu'est-ce qu'il est devenu, où il est passé? Bon, on se doutait qu'il avait une maîtresse, mais c'est pas clair, sa femme, elle sait plus trop où elle est. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que je trouve assez intéressante, c'est qu'on a eu, à une certaine époque, Aldo Moro, vous devez tous vous en rappeler, Aldo Moro, qui avait été kidnappé et qu'on a retrouvé dans un coffre de voiture, il me semble. Donc voilà, vous essayez de faire, comment dirais-je, vous avez essayé, enfin, on est proche d'Aldo Moro, mais ce n'est pas du tout Aldo Moro. Et de l'autre côté, il y a le côté non médiatique qui est complètement l'inverse de la situation actuelle.
Oui, mais vous avez raison de citer Aldo Moro, parce que si j'essaye de chercher une origine très très lointaine à ce livre, finalement, peut-être est-elle à chercher du côté d'Aldo Moro. Parce que
ils n'avaient pas d'humour, ceux qui l'ont enlevé. Hein. Ben,
il y a très longtemps, j'étais à Rome, j'ai fait une projection du film que j'ai fait sur Antonin Artaud, en compagnie d'Antonin Artaud, et il y avait là beaucoup de cinéastes italiens, puisque les Italiens n'ont pas le snobisme des Français et sont capables de venir voir les films d'autres. Et parmi eux, il y avait Nanni Moretti, avec qui j'ai eu une grande discussion, et justement sur Aldo Moro. Et je lui suggérais, mais il n'a pas suivi ma suggestion, je lui disais, mais pour moi, la chose qui serait intéressante et importante, c'est d'écrire un scénario où, justement, les Brigades Rouges ne tueraient pas Aldo Moro, mais le relâcheraient. Et j'imaginais la scène où Aldo Moro arrivait à la Démocratie chrétienne. Les standardistes ne le reconnaissaient pas, évidemment. Vous savez plus qui c'était. Plus personne ne voulait le reconnaître. Et puis, le numéro 2 de la Démocratie chrétienne, Andreotti, était devenu numéro 1. Et puis, tout le monde avait monté d'un échelon. Et donc, au bout du compte, c'était ses propres amis qui l'assassinaient. Et je crois que ce modèle-là, c'est un modèle très fort que j'avais un peu aussi esquissé dans Notre part des ténèbres, mais qui, là, est exactement ça. Pour eux, c'est la référence. Pour eux, d'abord, il faut dire une chose, quand ils voient Ramu pour travailler, ça aussi, ça participe, je dirais, à l'humour de cette histoire. Ils sont tous masqués, mais ils se sont masqués avec les masques de Blanche-Neige et les Sept Nains.
Oui, alors là, je voudrais... Exactement, expliquez-moi pourquoi.
J'ai pas trouvé la clé,
si tant est qu'il y
en a une. Il n'y en a pas une plus que ça. Ils sont allés les uns et les autres dans des magasins de farce et attrape. Ils ont acheté, ils avaient décidé de prendre quelque chose. Ils se sont mis d'accord. Bon, Blanche-Neige et les Sept Nains, puisqu'ils étaient sept, eh bien oui, voilà, on va prendre de Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc ils sont masqués, on ne peut pas les voir. Alors que Aldo Moro, ceux qui détenaient Aldo Moro, n'étaient pas masqués. D'ailleurs, Aldo Moro, on le comprend dans ses lettres, a immédiatement su qu'il allait être exécuté, puisque les uns et les autres se montraient à visage découvert, même si lui était retenu dans une pièce extrêmement étroite, etc. D'ailleurs, au passage, je vous signale, il y a un film de Moscou sur ça, absolument exceptionnel, où il a réussi à filmer aujourd'hui ceux qui ont été les exécuteurs d'Aldo Moro, et qui sont soit en liberté surveillée, soit... je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, ils sortent et puis ils rentrent pour travailler. Mais enfin, ils sont toujours vivants, en semi-liberté, etc.
— Voilà, vous venez donc d'écouter M. Gérard Mordilla qui nous parlait de son livre La Brigade du Rire, et je m'excuse encore, si vous le voulez bien, pour la qualité de cet enregistrement qui était réalisé en public et où j'ai un peu jonglé, les techniciens Manu également, pour le rendre totalement audible. Merci, à bientôt, vous êtes bien sur FM+, et votre émission c'était Les Livres ont la Parole.